L'ouvre-boîte.
Vous écoutez IDFM, il est 21h.
IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes et à tous. Un au-delà du miroir ce soir avec trois femmes, deux qui seront très bavardes, une qui le sera beaucoup moins. Les deux bavardes, là, c'est moi, vous me connaissez déjà, je suis toujours là le lundi et le mardi. La deuxième, c'est Catherine Auberlé qui va se présenter dans quelques instants. La troisième est une auditrice d'IDFM Radio Anguin, elle s'appelle Anne-Marie, on la salue, elle vient de Clichy. Bonsoir Anne-Marie. Catherine Auberlé, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nous dire un peu ce que vous faites ici, ou tout du moins dans la vie en ce moment ?
Oui, alors bonsoir et merci déjà de m'accueillir ce soir. Donc je suis coach et gestalt-thérapeute et je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes. J'aime bien dire que je suis boosteuse de vie aussi. C'est-à-dire que j'accompagne les femmes vers le mieux-être, vers la réussite, vers tous ces thèmes où elles ont du mal à s'épanouir, à dépasser leurs croyances limitantes, les loyautés familiales, les résistances, tous ces sujets qui font que souvent les femmes n'osent pas évoluer pleinement, se réaliser dans leur vie et faire ce qu'elles ont réellement envie de faire.
Alors accompagner les femmes, ça veut dire que si un homme tape à votre porte, vous lui dites non, tu passes à la, vous allez voir ailleurs.
Non, pas du tout. Justement, je lui dis bienvenue et ça arrive régulièrement où les hommes me disent et moi, est-ce que je peux venir? Alors pour certains,
surtout s'il y a des femmes, ça doit les attirer.
Oui, alors pour certains stages, on va dire là, je suis plutôt sur le pour les stages. Certains stages sont vraiment réservés aux femmes et puis d'autres sont ouverts aux hommes effectivement parce qu'il y a certains thèmes comme le thème que je vais abordé vendredi sur le thème de l'argent, donc, qui est ouvert aux hommes, parce que ça les concerne eux aussi, et bien souvent, ils ont envie de venir et de partager avec des femmes, justement, et de voir un petit peu comment ça se passe pour les femmes et comment ça se passe pour les hommes. Et c'est toujours intéressant de voir les différences qu'il y a entre les deux, et les croyances que les uns ont sur les autres aussi.
En dites-vous aussi que vous êtes une éclaireuse, donc un phare. C'est joli, ça. Hein,
oui, 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 j'aime bien parce que j'ai... En fait, je me dis que de là où je suis et de ce que j'ai fait de ma vie, ben, je suis juste quelques pas en avant, en fait. Donc, c'est ce qui me permet de guider. Je guide les femmes, les femmes et les hommes. Et je sers de guide, je sers de phare. J'ouvre la route.
Vous avez sur votre site internet www.catherine-ducis-oberlé.com un petit livret que vous pouvez télécharger gratuitement pour ceux qui nous écoutent. Et vous écrivez dans ce livret pour la petite histoire. Il y a quelques années, j'ai fait un burn-out qui a complètement changé ma vie et ma vision du travail. Vous pouvez en parler un peu, Catherine Oberlé, s'il vous plaît.
Oui, alors, je vous vois venir. C'est vrai que ce que je fais actuellement, c'est une deuxième carrière. Donc, ma première carrière, ça a été dans le management, dans la création d'entreprises. Je pensais être une Wonder Woman. Donc, je travaillais beaucoup. Je travaillais jusqu'à 12, 15 heures, voire 18 heures par jour. Je voulais réussir. Et à cette époque-là, la réussite pour moi passait par gagner de l'argent. Je dirais pas beaucoup d'argent, mais gagner suffisamment d'argent pour vraiment être bien dans ma vie et surtout pour être sécurisée, pour être tranquille. Je viens d'une famille où il n'y avait pas beaucoup d'argent. Donc, c'était important pour moi de gagner de l'argent et d'être dans une réussite sociale. Et je me suis un petit peu perdue là-dedans. Par contre, j'ai fait des choses vraiment magnifiques. J'ai travaillé à l'étranger, j'ai travaillé en Afrique, en Inde, en Europe. Après, je suis revenue, j'ai continué à Paris. Je travaillais pour une compagnie aérienne. Et puis, à force de travailler beaucoup, 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 à un moment donné, mon corps a lâché et j'ai fait un burn-out. Donc, ça a été...
Ça se traduit comment ?
Ça se traduit par... pour moi, ça s'est traduit en tout cas par une maladie. D'abord, ça a été une grippe très importante que j'ai mis très longtemps à soigner. Puis, un épuisement. Un épuisement, d'ailleurs, dans le mot burn-out, hein, on se consume, on est brûlé de l'intérieur. Donc, on s'épuise et on ne peut plus se relever. Donc, j'ai dû me mettre en arrêt maladie pendant longtemps, puis reprendre en mi-temps thérapeutique. Et là, j'ai commencé à faire un travail sur moi, à aller voir un psy et à comprendre ce qui se passait pour moi. Il faut dire qu'à cette époque-là, je revenais aussi de une petite dizaine d'années en Afrique où j'avais déjà beaucoup travaillé. Donc, j'étais vraiment dans une forme d'épuisement et je ne m'en étais pas rendu compte. Et puis, ce burn-out salutaire m'a permis de vraiment avoir une réflexion beaucoup plus profonde sur ce que je voulais faire dans ma vie, en quoi ça consistait finalement. Est-ce que c'était si important de réussir? Et est-ce que réussir, c'était au prix de sacrifier sa santé? Et puis, ça m'a permis aussi de réfléchir. J'étais aussi à l'âge où j'avais 36, 37 ans.
Ça vous a permis de faire un bébé?
Ben voilà.
Qui a trouvé un petit temps d'arrêt, là. Un magnifique cadeau, comme vous dites, qui a été la naissance de votre fils. Alors, vous vous êtes dit que vous étiez devenue une working girl. C'est la première fois que j'entends ça. Donc, 36 ans, vous faites un break, et vous avez votre enfant, et là, vous vous décidez peut-être de ne pas reprendre à fond la caisse, c'est-à-dire de donner du temps à votre enfant.
Exactement. Et même de ne pas reprendre du tout dans le métier dans lequel j'étais, qui est ce métier de l'aviation, qui est un métier qui évolue quand même rapidement. Et donc, j'ai fait un choix. J'avais les moyens aussi, les possibilités. Il y a aussi la vie qui a fait que la société que j'avais montée, ou en tout cas dans laquelle j'avais une participation, a été revendue. Donc j'avais aussi une réflexion à ce niveau-là. Est-ce que je reprends? Est-ce que j'ai envie de retourner dans cette société-là ou pas? Dans cet environnement-là qui était vraiment en plein changement? Et puis la réponse a été non. J'ai vraiment préféré consacrer mon temps à mon enfant à ce moment-là.
Et la Gestalt-thérapie, elle est arrivée à quel moment?
À ce moment-là.
Avant l'enfant ou après?
Elle est arrivée peut-être un petit peu après. D'abord, c'est la psychanalyse qui a été présente dans ma vie, hein, comme pour beaucoup de gens, surtout à l'époque, puisque ça, c'était il y a une vingtaine d'années. Voilà, quand on va pas bien, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ben, allez voir un psy. Mais à l'époque, c'était psychiatre, psychanalyste. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et moi, être allongée sur un divan et parler à quelqu'un
qui se tait,
qui est derrière, j'entendais tourner les pages de son journal. J'ai trouvé ça vraiment très désagréable. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit non, c'est pas pour moi. Non.
Alors, comment vous en êtes arrivée à la Gestalt-thérapie ?
Eh ben, j'ai rencontré quelqu'un. Il y a eu sur mon chemin, c'est voilà, l'histoire des synchronicités, on pourrait dire aussi, hein, et des belles rencontres. J'ai participé un jour à une formation. Et la personne qui animait cette formation, je suis allée la voir à la fin en disant « Toi, t'es pas comme les autres formatrices. Il y a quelque chose qui est différent dans ta manière d'être. » Et elle m'a regardée, elle m'a dit « Ben oui, moi je suis gestalt-thérapeute aussi. » Et là, ça a fait, Eureka.
Donc vous avez fait une séance.
Donc voilà, c'est exactement. C'est devenu d'abord ma coach. Et puis rapidement, enfin, je me suis dit « Non, c'est pas une coach dont j'ai besoin. Je la veux comme thérapeute. » Donc, on a switché, on a changé, c'est devenu ma thérapeute. Et vraiment, elle m'a fait découvrir la gestalt-thérapie, la manière de travailler en gestalt-thérapie.
Est-ce que vous pouvez nous la faire découvrir, votre première séance ? Parce que c'est quelque chose. Hein.
Alors, la première séance...
Ça ne s'oublie pas.
Je sais que j'ai beaucoup pleuré, surtout. En fait, parce que la gestalt, voilà, c'est vraiment... ça nous autorise à aller dans nos émotions. Ça nous autorise à aller... Il faut être prêt, je dirais aussi, hein, mais aller se reconnecter aux émotions, au corps, à ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous. Donc, c'est un petit peu... Je veux dire, c'est difficile de résumer la gestalt en deux ou trois mots, mais c'est vrai que pour moi, ça a été une révélation. Ça a été une révélation et ça se passe aussi beaucoup dans le lien, dans la relation avec le thérapeute. Et pour moi, c'était la grande différence. C'était que la personne était en face de moi et était partie prenante dans ce qui se passait.
Est-ce que c'est dans cette thérapie où on vous remet un peu dans le ventre de votre mère ?
Non.
C'est pas celle-là ?
Non, c'est pas celle-là. Non.
D'accord. Donc vous avez fait une formation de...
Voilà. Donc au bout de quelques années, comme j'ai vu que ça marchait bien pour moi... Je me suis dit, c'est vraiment génial, je vois que ça marche, j'ai envie de me former à la gestalt-thérapie. Donc je suis allée m'inscrire à l'EPG, l'école parisienne de gestalt. Et là, j'ai embrayé pour quelques années. Plus que ça. Enfin, 4 ans, c'est vraiment un minimum. C'est plutôt entre 6 et 8. Enfin, pour aller jusqu'au bout du troisième cycle. Mm. Donc voilà.
Donc vous êtes
Gestalt-thérapeute, exactement.
Ça vient de l'Allemagne, je crois.
Oui, tout à fait. C'est Fritz Perls qui a mis ça au point. Bon, il n'était pas seul. Il y avait sa femme et puis il y avait d'autres personnes autour de lui. Mais ce qui fait la richesse de la gestalt-thérapie, c'est que vraiment ça inclut et l'énergétique et le corporel et le spirituel et l'émotionnel. Donc, on regarde vraiment la personne dans sa globalité, dans son entièreté, j'ai envie de dire. On ne sectionne pas. On n'est pas à travailler que sur la tête ou que sur le corps ou que sur les émotions ou que sur l'énergétique. On regarde vraiment l'ensemble de la personne et on travaille sur l'ensemble de la personne.
Donc, la personne est quoi ? Elle est assise ? Elle est couchée ?
La personne est, en tout cas, moi, la manière dont moi je travaille, la personne est assise et je peux, pendant une séance, lui demander de se mettre debout, je peux lui demander de faire certains exercices avec moi, je peux lui demander d'exprimer ses émotions, que ce soit de la colère, des pleurs. Donc c'est dans le mouvement, en tout cas. Et par mouvement, j'entends que ce n'est pas quelque chose de figé ou de statique. Je ne vais pas la faire courir dans la pièce ou quoi, mais je vais vraiment... Et ce qui est important aussi, un mot que j'aime beaucoup, c'est co-création. Donc, je crée avec le « nous créons ensemble » quelque chose. Et chaque séance, c'est vraiment ça, c'est une co-création. Donc, je ne sais pas du tout à l'avance de ce qui va se passer, ni de quoi on va parler. Je ne relance pas forcément sur la séance d'avant. J'attends vraiment de voir ce qui émerge. C'est la personne qui va faire émerger quelque chose. Et c'est ce qu'on va appeler, on travaille beaucoup avec le fond et la forme. La gestalt, c'est la forme. Donc, on va voir ce qui émerge, quelle est la forme qui émerge. Et c'est avec ça que je vais travailler.
Sur des femmes qui ont des problématiques de tout ordre, c'est-à-dire plutôt des dépressives, des femmes qui ont du mal à se trouver une place dans la société ou dans leur famille ou...
Alors moi, je travaille plutôt avec des femmes qui ont un questionnement sur la féminité, sur la sexualité, sur la place qu'elles ont envie de prendre dans le monde, dans la société, sur la manière de s'affirmer, la manière de lâcher les croyances limitantes qu'elles ont et de vraiment travailler. On dit, en Gestalt, on parle souvent aussi de l'ici et maintenant. Donc moi, je vais travailler vraiment dans ce qui se passe aujourd'hui pour elles. On va faire des passerelles avec le passé, mais je ne vais pas passer 10 ans sur la petite enfance, comme on le fait plutôt en psychanalyse. Voilà. Mais je vais vraiment ramener toujours dans le présent et dans ce qui se passe avec moi. Puisque le but de la Gestalt, c'est aussi, on travaille beaucoup sur la relation, sur ce qui se passe entre moi et la personne. Parce qu'on part du principe que ce qui se passe là est révélateur de ce qui se passe dans la vie de la personne au quotidien. Donc la séance ou le cabinet est un petit laboratoire. Mmh. Donc on va s'appuyer sur ce qui se passe là, et qui fait partie de la phénoménologie aussi, de voir ce qui se passe là dans le présent, dans le champ, et voir ce qui émerge et comment ça se passe.
D'accord, ça c'est en tant que thérapeute, vous faites aussi des formations, des ateliers?
Oui. Oui, tout à fait. Donc, je travaille. Alors, j'ai certains points. Alors, ça évolue, bien sûr, au fur et à mesure de ma pratique. Et pendant un temps, j'ai beaucoup travaillé sur la sexualité. Donc, je travaillais sur la sensualité, sur le couple. J'ai fait des stages en piscine d'eau chaude. J'ai fait des choses vraiment. J'avais tout un cursus pour les femmes. Puis là, ça a un petit peu évolué. Je travaille peut-être plus au niveau du coaching. Donc, j'accompagne aussi sur la relation à l'argent, par exemple. J'accompagne sur sur un stage qui s'appelle Déclic, de comment se réaliser, comment évoluer dans sa vie professionnelle ou dans sa vie personnelle, mais comment réaliser ses rêves, aller au bout de ses rêves. Aujourd'hui, on est dans une société dans laquelle les femmes veulent tout, et elles ont bien raison, parce qu'elles y ont droit. Mais il y a encore beaucoup de freins. Donc, moi, je vais les accompagner à dépasser ces freins et ces résistances.
Ça se trouve dans votre petit cahier. Les femmes ne s'autorisent pas à réussir. C'est une des clés de vos clés, oui, sur votre livre. Les femmes ont beaucoup de mal à se donner la possibilité de réussir parce qu'elles laissent plutôt la réussite aux autres, que ce soit aux enfants, au mari ou à la famille. C'est-à-dire, elles vont passer après.
Oui, c'est souvent le cas. Alors, je ne dis pas, ce n'est pas toutes les femmes, bien sûr, et heureusement, mais voilà, les femmes, en tout cas, qui viennent me voir, moi, avec lesquelles je travaille, voilà, c'est souvent ça. Il y a tout un mouvement de femmes qui, en tout cas, qui bougent, et elles se rendent compte que pour vraiment vivre la vie qu'elles ont envie de vivre, il y a des décisions importantes à prendre, il faut oser. Il faut oser, et là, on n'est pas habitué. Autant, même au niveau de notre éducation, un petit garçon va lui dire « Allez, vas-y, ose, lance-toi !» Alors qu'une fille, on va lui dire plus facilement « Ben non, fais attention, c'est pas pour toi, ou réfléchis bien, t'es sûr que tu veux faire ça, mais qu'est-ce qui va se passer pour toi plus tard, etc. » Comment tu vas te... On ne leur apprend pas vraiment à se sécuriser elles-mêmes dès l'enfance. Donc, elles apprennent ça adultes. Et c'est ce qui se passe actuellement. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui sont seules, qui élèvent seules des enfants, mais c'est à leur dépens parce qu'elles n'ont pas appris. Enfin, c'est pas naturel. Donc, il y a quelque chose. Il y a une force qui les pousse vraiment vers ça. Et elles sentent bien qu'elles ne veulent plus être dépendantes de l'homme. Mais elles ont vraiment à apprendre et à se sécuriser à cet endroit-là. C'est oui, elles ont le droit d'être seules. Oui, ou même pour celles qui n'ont pas d'enfants, c'est oui, elles ont le droit de ne pas vouloir d'enfants. C'est leur droit. Et il y a beaucoup de femmes maintenant, enfin il y en a de plus en plus en tout cas, qui ne veulent pas avoir d'enfants, mais qui ont beaucoup de mal à s'accepter là-dedans parce qu'il y a toujours le regard de la société, le regard des amis, le regard de la famille, qui ne trouvent pas ça « normal », entre guillemets. Mais qu'est-ce que la normalité ?
Respecter l'équilibre entre le féminin et le masculin, c'est ce qu'on saura tout de suite après la pause musicale. On se retrouve tout de suite après. Oui, sauf que mon disque n'est pas passé, donc il va falloir continuer. Donc j'ai un petit souci avec mon CD que j'ai dû mettre à l'envers. Ça arrive à tous les jours. Respecter l'équilibre entre le féminin et le masculin, c'est la plage numéro 1. Non, c'est la clé numéro 1 Dans votre petit livre, ça veut dire quoi, respecter l'équilibre entre le féminin et le masculin, Catherine Oberlé?
Alors, ça fait très longtemps, que j'entends parler du yin et du yang, ouais, ce fameux sigle du Tao, où il y a ce cercle qui est divisé en deux avec une partie noire et une partie blanche, et qui représente le yin et le yang, donc le féminin et le masculin. Et on a tendance à oublier qu'en tant que femme, nous avons ces deux forces-là en nous, ou ces deux énergies-là en nous. Et il est important de se les réapproprier, parce que c'est ce qui va faire notre équilibre. Donc j'explique dans ce petit livret que quand on est... Ce qui m'est arrivé moi, en fait, à l'époque du burn-out, c'est que j'étais beaucoup dans le yang, donc dans mon masculin. J'étais dans le faire, dans le pénétrer la vie, dans laisser mon empreinte, dans y aller, travailler, parce que je trouvais ça normal. Et c'est vrai que je me comportais comme un homme. Quand je dis tout à l'heure, vous disiez « working girl », c'était ça. Pour moi, ça passait par là. Et je pense qu'il fallait que pour réussir, ça passait par là. Donc, j'étais dans mon yang. Puis, quand j'ai fait le burn-out, j'ai appris à être dans le yin. Mais là, c'était un yin qui était vraiment, on pourrait dire, un yin un petit peu pervers, parce que c'est un yin qui n'est pas enrichissant. C'est un yin dans lequel on n'a plus notre puissance, on n'a plus d'énergie. Donc, le but, c'est vraiment d'aller équilibrer, de trouver... Et dans le Tao, on parle beaucoup de l'équilibre, de la voie du milieu. C'est trouver notre équilibre dans lequel on sera bien et dans le yang et dans le yin. Il ne s'agit pas d'être... Alors, on a quand même une dominante, même en tant que femme. Il y a certaines femmes qui seront plutôt yang ou d'autres plutôt yin. Mais le but est vraiment de réhabiliter ces deux parties de nous, ces deux notions, parce qu'on a besoin des deux. Et on voit bien les femmes qui sont souvent yang. Alors, ce sont des femmes qui peuvent être très jolies extérieurement, très féminines, avec des talons aiguilles, des jupes courtes, etc. Mais avec une énergie intérieure qui sera yang. Et à l'inverse, il va y avoir des femmes qui seront très yin. Alors, on en voit beaucoup actuellement aussi, avec tout ce milieu de la spiritualité, où les femmes se trompent et pensent que être yin, ça veut dire être un peu dans le monde des bisounours et puis de ne pas oser montrer leur puissance. Et pour moi, le féminin est puissant. Donc, la femme a réhabilité.
Si trop de yang, nous nous épuisons. Si trop de yin, nous sommes dans l'attente. On va voir si j'ai réussi à régler le problème. Oui. On va voir. C'est bon.
Get lost in each other's arms. Let's get lost, let them send out alarms. And though they'll think us rather rude, let's tell the world we're in that crazy mood. Let's defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list. To celebrate this night we found each other. Let's get lost. Let's defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list. To celebrate this night we found each other. Let's get lost. Oh, let's get lost.
Chet Baker sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande FM. Nous sommes dans cette deuxième partie d'Au-delà du miroir avec Catherine Oberlé et nous poursuivons nos clés pour aller mieux, pour faire cette jonction, respecter cet équilibre entre le féminin et le masculin. La première clé concernait le yin et le yang, respecter donc l'équilibre entre le féminin et le masculin. La deuxième va nous amener sur associer réussite et plaisir. Je crois qu'on en a déjà un peu parlé, tout du moins de la réussite, Catherine Oberlé, tout à l'heure. Comment associer réussite et plaisir?
Oui, alors pour moi, un thème central, c'est quand même le plaisir. Donc effectivement, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Et c'est un petit peu pour, peut-être pour adoucir aussi le thème réussite. Parce que là aussi, ça passe parfois comme pour un gros mot quand on parle de réussite aux femmes. C'est un mot qu'elles n'ont pas encore vraiment appréhendé. Et moi, je me suis rendu compte que là, aujourd'hui, la réussite pour moi passait vraiment, était associée au plaisir.
Est-ce qu'on peut faire quelque chose bien si on n'a pas envie de le faire? Ça, c'est une bonne question.
Eh ben exactement, c'est une bonne question, oui. Alors que quand on est dans le plaisir, c'est un moteur. C'est intéressant parce que quand on fait les choses avec plaisir, on n'est pas poussé par derrière, on est tiré comme ça et on y va.
Et on
ne
voit pas le temps passer.
Exactement. Et ça se fait tout seul. Donc pour moi, le plaisir, c'est ça. Quand je dis... réussite et plaisir, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de réussite sans plaisir. Et un jour, j'ai dit ça lors d'une conférence et je me souviens qu'il y a une des personnes qui était présente, qui prend son téléphone, qui cherche sur son téléphone, puis qui relève la tête et qui me dit « Mais qui est-ce qui a dit ça? Je ne le trouve pas sur Internet. » Je dis « Ben non, c'est moi. » C'est vraiment ce...
C'est bien, ça va faire partie des citations. Vous allez être dans le dictionnaire des citations. Il y a quelques petits exercices à faire dans ce petit livret. Et si je devais mourir demain, quel serait mon plus grand regret?
Oui, c'est vrai que ça devient un petit peu un grand classique, ce genre de questions. C'est vrai que maintenant, dans le monde du développement personnel, on retrouve souvent ce genre d'exercice. Mais pour moi, c'est vraiment... C'est pas anodin, c'est pas... C'est tellement... Enfin, je veux dire, c'est facile, ce genre de questions-là. Moi, je me la pose régulièrement, tous les 6 mois à peu près. Voilà, je me mets assise devant ma table et je me dis, ok, où j'en suis? De quoi j'ai vraiment envie? Est-ce que je suis contente de ma vie aujourd'hui? Est-ce que je suis contente de ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai envie de changer?
Est-ce que je ne perds pas mon temps?
Exactement. Est-ce que je ne perds pas mon temps?
Mieux à faire?
Oui, et pas seulement son temps, mais aussi son énergie.
Son énergie, oui. Est-ce que je mets bien mon énergie là où elle doit être?
Exactement.
Alors ça pourrait être aussi un endroit où on a toujours rêvé d'aller et on n'est jamais allé.
Par exemple.
C'est tout bête à réaliser, mais... Donc posez-vous la question, auditeur, auditrice, après un petit moment de réflexion. Et si je devais mourir demain, et si vous deviez mourir demain, quel serait votre plus grand regret?
Moi, je sais que, par exemple, à chaque fois que je me pose cette question, ce qui vient en premier, c'est quand même mon fils. C'est vrai que la première image, c'est lui. Donc c'est tout ce que j'ai envie de...
De ne pas quitter.
Voilà.
Mais est-ce que c'est à ce niveau-là? C'est pas plutôt sur ce qu'on n'a pas fait, parce que votre fils, vous l'avez fait, finalement.
Non, mais oui, mais ce que j'aurais envie de faire avec mon fils, envie de partager avec mon fils.
Ouais. Alors ça, c'est très bien que vous en parliez, parce que si vous avez des enfants jeunes, faites les choses avec eux pendant qu'ils sont encore chez vous, après ce sera trop tard.
Exactement, exactement. Et moi, je suis dans ce passage-là, où mon fils part, là, bientôt. Donc voilà, donc il va y avoir un changement de situation. Donc je me suis dit, vite, d'ailleurs je pars en vacances là bientôt avec lui, 3 semaines, tous les deux.
Est-ce que j'en ai fait assez pour lui? Est-ce qu'on a assez été dans les musées? Est-ce que je l'ai assez ouvert à tout un tas de choses?
Est-ce que je lui ai assez donné d'amour? Bah, c'est ça.
Posez-lui la question.
Mais
je pense
oui,
que
je
vous,
le fais.
Vous allez avoir la réponse. Mais déjà, si vous vous posez la question, c'est qu'il y a de grandes chances que vous lui en ayez donné assez, vous ne croyez pas ?
Bien sûr, mais voilà, mais c'est bon quand même de savoir, c'est bon de remettre l'essentiel au centre. Et l'essentiel, c'est quoi ? C'est l'amour.
C'est l'amour, oui. Alors justement, pour ces gens, toutes ces personnes qui nous écoutent, et surtout des femmes, puisque ça s'adresse à des femmes qui sont en dernière partie de vie et qui n'ont plus à s'occuper des enfants, qui n'ont pas de petits-enfants, ou qui ne sont pas impliquées dans ces choses-là, qu'est-ce qu'elles pourraient se poser comme question au moment de leur mort ? Voilà, c'est quand même important, parce que là, ce n'est plus au niveau de la famille.
Non, parce que c'est au niveau, c'est là où je travaille, enfin c'est le sujet sur lequel je travaille beaucoup avec les femmes, c'est qu'est-ce que j'ai fait de ma vie de femme, de mon être femme ? Est-ce que je me suis respectée ? Est-ce que je suis allée au bout de mes envies ? Est-ce que j'ai osé ? Oser, c'est aller dans des endroits où il m'a fallu du courage pour y aller.
C'est plus facile de dire non des fois.
Ah, l'histoire du non. C'est compliqué, l'histoire du non. Parce que parfois, les femmes ont du mal à dire non. Donc parfois, il y a vraiment les deux. Il y a les endroits où on va dire non facilement parce qu'on a peur d'y aller. On a peur de dire oui, on a peur de la nouveauté. On a peur d'aller au-delà de nos peurs, justement. Et puis, il y a les endroits où on devrait dire non.
Et on ne le dit pas.
Et on ne le dit pas parce qu'on n'a pas appris à dire un vrai non. Mais ce qui est important, c'est de savoir et de sentir dans son corps que quand on dit un nom qui est aligné, un nom qui est bon pour nous, et ben ça ouvre sur le vrai oui, comme on dit.
Sur le vrai oui à la vie.
Oui, exactement.
Donc se ressourcer, après donc, nous passons à se ressourcer pour s'épanouir, se ressourcer et s'épanouir. Les femmes ont tendance à oublier de se ressourcer.
Oui, et justement, si vous parlez de femmes qui sont actuellement peut-être en deuxième partie de vie ou qui sont seules, peut-être que ça peut être cette génération aussi de femmes qui a beaucoup donné pour la famille, qui a beaucoup donné peut-être pour le métier, qui a beaucoup donné pour les autres et qui se sont un petit peu oubliées. Et quand on s'oublie, eh ben on oublie de prendre soin de soi, on oublie de se connecter à sa source. Et sa source, se connecter à sa source, ça passe par la méditation, ça passe par aller dans la nature, se connecter aux éléments, ça passe par prendre conscience qu'on fait partie d'un tout, qu'on n'est pas juste un être humain perdu au milieu de rien ou perdu au milieu des autres, qu'on a chacun notre place et qu'on est important dans cette place-là et qu'on fait partie de tout un système et que ce système, c'est un écosystème aussi et qu'il est bon de le respecter, mais qu'il est bon de se faire respecter aussi par ce système. Et c'est-à-dire, j'entends par là de rentrer dans la ronde de la vie, du mouvement, c'est-à-dire d'aller se ressourcer dans la nature, dans la forêt, au bord de mer, n'importe où.
Dans un jardin public.
Dans un jardin public, exactement. De mettre parfois les pieds dans la terre, parce qu'on peut passer, on peut facilement passer une année sans mettre les pieds dans la terre. C'est quand même dommage. Donc c'est vraiment se connecter, sentir l'herbe sous ses pieds, sentir, mettre ses mains dans l'herbe ou dans la terre. Vraiment se connecter aux éléments.
Se libérer des loyautés familiales, ça, c'est pas facile.
Ça, c'est un sacré programme. Alors, ça, effectivement, c'est pas facile. Ça ne se fait pas en, comment on dit, en trois mouvements.
En claquant des doigts.
En claquant des doigts, encore moins. Donc, ça demande vraiment, ça demande un vrai travail sur soi. Ça demande une réelle réflexion et ça demande d'être accompagné là-dedans. Parce que sinon, on tourne en rond et on pense qu'on avance, mais on n'avance pas. Les loyautés familiales, c'est vraiment toutes ces choses qui font partie, qui nous ont été transmises. Moi, je travaille beaucoup sur le transgénérationnel. D'ailleurs, j'animais pendant longtemps un stage qui était sur la lignée des femmes, se libérer de sa lignée. Et on travaille vraiment sur tout ce qui nous a été transmis. Là, c'était sur le thème des femmes. Hein, donc, on travaille essentiellement sur la lignée des femmes. Mais tout ce qui nous a été transmis. Donc, ça veut dire tout ce qu'on a entendu quand on était enfant.
Tout ce qu'on nous a pas dit.
Tout ce qu'on nous a pas dit, tous les secrets, tout ce qui est transmis au niveau de l'inconscient, au niveau des non-dits, mais qui se transmet autrement, qui se transmet par les cellules déjà, hein, au niveau génétique, qui se transmet au niveau... et puis maintenant, on parle beaucoup d'épigénétique aussi. Hein, et c'est vrai que l'épigénétique, ça englobe aussi l'environnement dans lequel on a évolué. Donc, bien sûr, nos familles, nos parents ne nous disent pas tout, mais leur comportement, on peut en dire beaucoup. Et ça, quand on est enfant, on le capte. On le capte, mais comme on n'a pas d'explication sur ce qu'on a capté, eh ben, on va le garder en soi, on va le mettre au fond de soi. Et puis, quand on grandit, bah, ça va venir un petit peu nous bousculer, mais on ne saura pas ce que c'est. Donc, faire un travail sur soi, ça consiste à aller voir ces zones-là, à éclairer sa cave. Moi, j'aime bien cette image-là. C'est vraiment éclairer ce qu'on a dans notre cave. Et ça, ça vient quand même de beaucoup de notre milieu familial ou environnement familial. Et voir un petit peu bah, tout ce qui est caché là-dedans.
Alors, il y a un petit exercice qui dit « Repensez à une situation dans laquelle vous aviez tout mis en place pour que cela réussisse et pourtant ça n'a pas abouti. » Il y a aussi ces familles qui n'arrivent pas, ces personnes qui n'arrivent pas à changer de métier, qui restent conditionnées dans une classe sociale parce que c'est très difficile de changer de classe sociale quand on fait partie d'une famille qui l'est. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, repensez à une situation dans laquelle vous aviez tout mis en place pour que cela réussisse et pourtant ça n'a pas abouti. Petit questionnement qu'on peut se poser. On passe à la clé numéro 5.
Je voulais juste terminer avec c'est Vincent de Gaulle-Jacques qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, sur la névrose des classes et justement sur la difficulté quand on est issu d'une classe sociale moyenne de s'élever et de passer dans la classe supérieure. Qui a vraiment, et pour, là, vraiment, on est sur les loyautés familiales. On est sur comment acquérir le droit de changer de classe sociale. Comment acquérir le droit aussi de gagner de l'argent, par exemple. Et c'est pour ça que je travaille aussi sur ce thème-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'argent, c'est un tabou. Et il y a beaucoup de personnes qui diabolisent ce thème de l'argent aussi. Alors que l'argent... peut-être quelque chose de très spirituel, mais qu'il est important vraiment de changer son regard sur l'argent et aussi de changer son regard sur soi, sur son environnement, justement sur la classe sociale de laquelle on vient, qui consiste vraiment à garder nos racines, on les a, on ne pourra pas les changer. Hein. Donc c'est se réconcilier avec ses racines pour pouvoir se développer et fleurir.
C'est une jolie, une très jolie image. Cultiver la confiance en soi, clé numéro 5. Ce n'est pas le fait d'avoir toujours raison qui engendre la confiance en soi, mais celui de ne pas craindre d'avoir tort. D'un certain Peter T. Mike T. Oh là, il a un drôle de nom. M-C-L-N-T-Y-R-E.
Oui.
Cultiver la confiance en soi. Il y a des gens qui ont confiance en eux.
Naturellement, bah oui, parce qu'ils ont une bonne estime de soi, parce que quand ils étaient petits, ils ont eu tout ce qu'il fallait, hein, le regard, les paroles, le ton, qui les a soutenus. Tout ça, ça les a soutenus et ça fait qu'ils ont grandi en ayant une bonne estime. Donc, petit à petit, ils ont eu confiance en eux, dans ce qu'ils faisaient, dans les actes qu'ils posaient, dans les paroles qu'ils ont pu dire, exprimer et dans les choix qu'ils ont pu faire. Mais heureusement, la confiance en soi peut s'acquérir aussi plus tard. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se travaille au quotidien et c'est la base. Pour moi, c'est vraiment la base et c'est vraiment un sujet sur lequel je travaille beaucoup avec les femmes parce que malheureusement, les femmes, enfin là, c'est pas 100%, hein, mais voilà, beaucoup de femmes ont, il y a des hommes aussi, bien sûr, mais ont un déficit, je dirais, de confiance en soi.
Alors, quelle est la dernière fois que vous avez osé sortir de votre zone de confort? C'est une question que vous posez aux auditeurs. Et faire quelque chose dont vous ne seriez pas cru capable, c'est quoi la zone de confort? C'est ce qu'on fait tous les jours sans se poser de questions?
Exactement. C'est confortable, on ne prend pas de risques, c'est tranquille, on est bien avec ça. C'est intéressant parce que parfois, on en a marre quand même. Alors, ça chatouille. On a envie de changer. Et puis, c'est comme si on était dans un mouvement comme ça de se lever. Oh, tiens, je vais faire quelque chose, je vais changer. Et puis, hop, on se remet assis. Oh ben non, finalement, je suis bien là, c'est confortable ce fauteuil. Oh, je suis pas trop mal. Hein. Pourquoi je veux toujours aller voir ailleurs? Pourquoi je veux toujours faire autre chose?
Oui, ou changer de travail.
Voilà.
Changer sa vie, c'est sortir de sa zone de confort.
Oui, exactement. Et c'est vraiment cette zone de confort, hein, elle est vraiment bien délimitée. Mais c'est quand on sort de sa zone de confort qu'on grandit. Qu'on grandit et qu'on peut prendre de plus en plus confiance en soi. Tant qu'on reste dans sa zone de confort, on ne va pas se frotter à la vie. Non, on ne va pas se frotter à la différence non plus, au mouvement de la vie. Alors que quand on sort de sa zone de confort, et ben c'est là qu'on va faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et qu'on va se dire « Waouh, j'ai fait ça, je suis fier de moi, je suis content. » Et ça va nous donner, et c'est un cercle vertueux qui fait qu'on va avoir envie de continuer et qu'on va aller vers ce que j'appelle après la réussite. Parce que la réussite, ça englobe ça. C'est qu'est-ce que je réussis, les actes que je pose et que je réussis.
Oui, mais ne pas aller dans sa zone de confort, c'est se dire que peut-être on ne va pas réussir et qu'on aurait mieux fait de rien faire.
Oui, mais depuis...
C'est ça la confiance finalement aussi.
Oui, mais depuis... Quand on était petit, qu'est-ce qu'on a fait?
On n'a pas arrêté de s'adapter, d'évoluer.
Eh bien, exactement. On a appris à marcher. Et ce n'est pas facile, hein, se lever pour marcher quand même, hein, pour un petit bout de chou. On a appris à parler, on a appris à manger. On n'a pas arrêté les premières années de notre vie, on n'arrête pas. Et c'est comme si à un moment donné, quand on devient adulte, on se dit « Oh ben allez, là c'est bon. »
C'est bon, il n'y a plus rien à faire.
Voilà.
Eh ben non, ça ne marche pas comme ça. La dernière clé, la clé numéro 6, investir en soi, investir en vous. Ça veut dire quoi investir en soi? C'est une fois qu'on y a cru et qu'on est sorti de notre zone de confort. Comment on peut s'investir?
Investir en soi, ça veut dire... de manière très pragmatique, combien je suis prêt à investir pour aller mieux, combien je suis prêt à investir pour évoluer, combien je suis prêt à mettre par mois ou par an pour me faire aider pour sortir de cette zone de confort. Parce que souvent, les gens, s'ils ne sortent pas de leur zone de confort, c'est justement parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'ils ne sont pas soutenus. Donc, c'est pour ça qu'il existe des thérapeutes, des coachs, des mentors ou autres. Ce sont des personnes qui ont déjà fait ce travail-là, qui ont une expérience, qui sont formées aussi et qui vont vous aider, vous accompagner pour sortir de cette zone de confort et pour faire des choses que vous ne vous seriez pas cru capable de les faire.
Donc c'est un investissement financier, un investissement de temps aussi.
Oui.
Et c'est aussi se donner... Est-ce que vous demandez aux gens de se noter? C'est bien des fois de se noter, de savoir, de se mettre une note.
Ah non, j'ai jamais fait ça, j'ai pas pensé encore, mais ça peut être une idée.
C'est une très bonne idée qui marche dans beaucoup d'endroits où on voit au début quelle note on se mettait et quelle note on se donne à la fin. C'est nous-mêmes qui nous notons, donc il n'y a pas meilleur juge que soi-même. Ensuite, il y a des témoignages, mais on va peut-être repartir un peu en musique pour la dernière partie de l'émission. Et c'est parti.
Think that love's not around, still it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining no ground, because my angel with angel eyes tonight.
I gotta run. The fact's uncommonly clear. Gotta find who's now number one and why my angel eyes ain't gotta run. The facts uncommonly clear. Gotta find who's now number one and why my angel eyes ain't
Je pense que vraiment, il aimait ce qu'il faisait, Chet Baker, hein, parce que je n'arrive pas à le couper tellement c'est beau. Dernière partie avec Catherine Oberlé. Sur quoi exactement? Qu'est-ce que vous proposez dans vos prochains stages? Quelles sont les propositions que vous avez? Vous avez parlé des femmes, vous avez parlé de l'argent, vous avez parlé... Qu'est-ce que vous proposez là dans l'année qui arrive, enfin cette fin d'année, c'est moi
oui.
qui arrive.
Alors le prochain déjà qui a lieu là le vendredi 1er juillet, qui est un stage sur l'argent, où il s'agit vraiment, on travaille justement sur les loyautés familiales et sur ce qui nous a été transmis concernant l'argent, les croyances sur l'argent, comment on a été élevé, parce que dans chaque famille c'est différent, là, vraiment sur ce sujet-là. C'est qu'est-ce qu'on a entendu quand on était enfant sur l'argent? Est-ce qu'on nous a appris à parler d'argent ou pas du tout? C'est intéressant.
Est-ce
hein
que c'est sale l'argent?
Exactement.
L'argent sale.
L'argent sale, l'argent salement gagné, l'argent où les patrons se font tous de l'argent sur notre dos, ou au contraire, ça va être ah ben non, il faut gagner de l'argent, ou il faut être patron. Voilà, c'est vraiment quelles sont les croyances qu'on nous a inculquées. Quelles sont toutes ces... Et aussi, c'est les résistances qu'on peut avoir à gagner de l'argent. Non, parce que si on croit que l'argent est sale, ben ça va être difficile d'en gagner. Et si on... Et en même temps...
Et si c'est difficile d'avoir de l'argent aussi
Oui, et puis on est dans une société de consommation. Donc c'est vrai qu'on associe beaucoup argent avec consommation. Mais on oublie qu'avec de l'argent, on peut faire des belles choses aussi. Ouais, et que l'argent, il y a vraiment, il y a eu un article dans le dernier Psychologie Magazine sur l'argent et comme quoi l'argent était spirituel. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir un autre regard, de changer notre regard sur l'argent.
Ça c'est pour cette semaine là, vendredi.
Donc ce vendredi,
juillet.
Voilà, vendredi 1er juillet. Et puis la suite, ça sera la rentrée, ça sera le 24 et 25 septembre. Donc, stage qui s'appelle Défi. Et là, on sera vraiment sur oser réussir sa vie. Donc là, on va travailler sur toutes les résistances qu'on peut avoir pour ne pas mener son projet de vie à bout. Et toutes les résistances qu'on peut avoir pour ne pas oser se réaliser, pour ne pas se faire confiance, pour ne pas oser sortir de sa zone de confort dont on parlait tout à l'heure justement. Donc c'est vraiment aller voir ce qui est caché Là, ce qui est... parce que souvent, on a envie de faire quelque chose, mais un jour, j'ai entendu quelqu'un, j'ai trouvé ça magnifique, qui me dit, mais moi je ne comprends pas, j'ai l'impression que je fais tout. C'est comme s'il y avait tout ce qu'il fallait à manger sur la table, que tout était là, bien préparé, la table est bien mise, c'est magnifique, les plats ont l'air délicieux, mais je n'y vais pas. Il y a quelque chose qui m'empêche d'y aller.
Elle n'a pas faim.
Qui m'empêche d'en profiter et de jouir de ce qui est là. Et alors, c'est un petit clin d'œil, hein, ouais. Parce que je vous voyais écouter la musique et apprécier la musique tout à l'heure, mais il s'agit de jouir de la vie aussi. Et c'était quand même un thème, là, je raccroche au plaisir aussi dont on parlait tout à l'heure. Mais voilà, on est là pour jouir dans tous les sens du terme. Et quand on apprend, on sait jouir de la vie, et ben c'est un plaisir de se lever le matin et de démarrer une journée, parce qu'on sait qu'on va faire plein de choses intéressantes, passionnantes dans sa journée.
Alors, un stage où vous aurez combien de personnes au maximum en septembre, là ?
Alors, en général, entre 12 et 15.
Oui, c'est un bon... Donc, vous allez d'abord définir un objectif, savoir ce qu'ils veulent.
Voilà, tout à fait. Voir un petit peu où elles en sont, elles ou ils, parce que là, ce sera un stage mixte. Donc, s'agit de faire un point, de poser les choses. Et puis, petit à petit, vraiment là, on va être plutôt sur un mode coaching. Hein, donc, ça va être d'aller voir quelles sont vraiment les résistances, quels sont les saboteurs. Je n'ai pas parlé encore des saboteurs, hein, mais ça... C'est vraiment en lien avec cette partie interne de soi qui nous empêche de nous réaliser et qui nous empêche de goûter la vie pleinement. Et ça, les saboteurs, c'est souvent aussi issu de la famille. Voilà.
Sabotage, c'est la petite voix qui nous dit « de toute façon, tu n'y arriveras pas ».
Exactement. Alors celle-là, vraiment, il faut réussir à lui tordre le cou. Alors c'est la petite voix où parfois, on me parle souvent aussi de l'œil. Alors moi, je l'ai appelé l'œil de Moscou. Hein, c'est cet œil qui est toujours là, un petit peu à l'extérieur, au-dessus de nous, tout le temps en train de nous juger, de nous épier, de nous regarder. Et c'est tout, voilà, tout ce qui vient de l'extérieur et à quoi on est soumis. Hein, donc, est-ce qu'on est... Et c'est intéressant de voir aussi à quel point on est soumis au regard de l'autre, au jugement de l'autre.
Oui, au jugement qu'on nous a donné nous-mêmes quand on était enfant, au jugement sur les femmes de la famille. De toute façon, elles ont toutes divorcé, ou de toute façon, elles ont toujours terminé seules, ou de toute façon, voilà, telle mère, telle fille.
Ouais. Et puis, il va y avoir un troisième stage, je n'ai pas posé de date encore, mais qui va arriver. Qui sera un stage où je vais retourner un petit peu à mes origines, je dirais, et qui sera un stage de ressourcement. Où il va y avoir des temps de méditation, des temps de connexion avec la nature pour vraiment se reconnecter à sa source et aller puiser en soi, voir quels sont ses désirs profonds.
Et ça, vous le faites où, tout ça ?
Alors, les deux premiers ont lieu à Paris. Et le troisième, je suis en train de chercher un lieu justement pour le faire. Pardon ?
À la campagne.
Voilà. Et 2017, le projet avec une collègue, ça sera un stage qui sera plus axé sur la puissance des femmes. Mmh. Alors là, qui sera réservé aux femmes. Et on va travailler sur ce thème-là.
Alors, ne vous déguisez pas, messieurs, on vous repérera. Hein.
Mais si, voilà, sinon, les autres, le stage là, sur l'argent et le stage le déclic est ouvert aux hommes aussi.
Votre site internet, c'est www.catherine-auberlet.com. Vous tapez Catherine Auberlet, de toute façon, vous tomberez sur le site. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter pour, vous n'avez pas écrit de livre hein, encore
Non, vous n'avez pas eu le temps. Alors, si. Mais s'il y en a un qui est écrit et je recherche un éditeur, justement. Donc voilà, je lance un appel.
Si un éditeur nous écoute, donc...
Voilà, ce qui est un livre sur les femmes, justement, qui s'appelle « Confidences de psy, les secrets des femmes », où là, j'ai vraiment développé tout le travail que j'ai fait avec les femmes et sur cette quête initiatique des femmes. Je parle de sexualité, je parle de la relation à l'argent, je parle du transgénérationnel... Je parle un petit peu de tous les sujets qu'on a vus aujourd'hui, de la relation homme-femme aussi, puisque j'ai beaucoup travaillé aussi à un moment donné sur les couples, sur la relation homme-femme au sein des couples. Donc voilà, j'ai développé tout ça dans ce livre.
Et la relation femme-femme ?
La relation,
c'est quelque chose, si oui, la relation femme-femme.
Oui, alors c'est vrai.
Quelquefois, ça pose des problèmes.
Oui. Alors, oui, tout à fait. Alors, je parle, il y a une partie du livre où je parle du mépris aussi, et justement du mépris. C'était parti de l'idée du mépris des femmes envers les femmes, mais aussi du mépris des femmes envers les hommes. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. Il y aurait vraiment de quoi à creuser.
Donc, ouais, si un éditeur nous écoute, Catherine Oberle, oberle.com, une citation pour terminer l'émission. J'adore les citations.
Là, comme ça...
Vous en avez plein.
Oui, j'en ai plein, mais...
Celle de, bah si, la vôtre, là, que personne ne connaissait, attendez, il faut que je la retrouve.
Ah oui, la réussite n'est rien sans plaisir.
La réussite n'est rien sans plaisir, Catherine Oberle. La réussite n'est rien sans plaisir. Ben oui, on ne peut pas réussir si on n'a pas pris du plaisir.
Pour moi, le plaisir est au centre, encore et toujours, dans toutes ses formes. D'ailleurs, à un moment donné, je voulais écrire le livre sur le plaisir. Mais il y a une partie, un chapitre là-dessus, bien sûr.
Merci Anne-Marie, ça vous a plu Anne-Marie? Ça vous a plu?
Dans le sens où on est imprégné beaucoup plus profondément en étant dans le studio que chez soi.
Ouais, je pense
en écoutant l'émission.
Bon, en tous les cas, Anne-Marie était avec nous. Catherine Oberle aussi. On vous souhaite de passer une très bonne fin juin. Merci. Puisque juin s'arrête. Et puis on se retrouve en juillet, si vous le voulez bien.
Merci beaucoup.
Merci Catherine.
À bientôt.
Au revoir.
À très bientôt, merci. Merci beaucoup.
Quand je sortirai de mon corps, comme un papillon, mieux encore, pour m'envoler vers d'autres ciels. Et découvrir d'autres soleils. Quand je partirai dans la nuit, entre les fleurs et les bougies. Quand je partirai pour de bon, souviens-toi de cette chanson. Quand j'aurai fini d'en finir, entre les larmes et les sanglots. Je viendrai vers toi sans rien dire et flotterai comme un drapeau. Et dans un signe de la main, entre les vapeurs de l'encens, je sais que tu me verras bien, tu sauras que je suis vivant. Alors j'attendrai l'ascenseur, et qu'importe le temps et l'heure, si c'est à Paris dans mon lit, ou dans un pays loin d'ici, ça n'est qu'un contrat qui se termine, mais surtout à la fin du film.
Écoutez IDFM, il est 22h.
Bienvenue, bonne soirée sur la grande radio du Val-d'Oise, 98 FM, c'est 100% musique. Nous démarrons l'émission avec le nouvel album des Kids United. Un deuxième album qui sortira le 19 août prochain. Voici le premier extrait, Destin. Les Kids United sont sur IDFM Radio Anguin.